Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode numéro 4, We Explore, une île de solutions.
We Explore, c'est une île de solutions dans un océan de questions.
Et voilà, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast We Explore, une île de solutions. Alors ce mois de février se termine, les jours se rallongent, le printemps va bientôt se montrer. Alors pour ce numéro, nous avions envie de parler de terre et de mer. Car comme nous en avons déjà parlé avec Bilou, on pourrait dire que nous sommes tous entre terre et mer. Pour ce numéro, Bilou va nous parler de One Ocean Summit et de la sauvegarde des océans, de la terre, de la mer, de bleu. Puis nous partirons en Normandie chez Terre de Lin, partenaire du projet We Explore, qui a fourni le lin pour la construction du catamaran. On a donc appelé Bilou, car One Ocean Summit s'est tenu du 9 au 11 février dernier à Brest, et Bilou y était. Il y avait d'ailleurs beaucoup de marins, des politiques, des aventuriers, des écrivains, mais c'était quoi exactement ce sommet ?
Officiellement, cette Ocean Summit, c'était une initiative gouvernementale. Hein. C'est vraiment pour faire avancer la diplomatie et les décisions autour de ce bien commun qu'est l'océan, ces grandes surfaces. Qu'est-ce qui va se passer au milieu, sachant que les intérêts, l'entonnoir se referme. Hein. Il y a des ressources dans l'océan, il y a plein de choses au fond. La glace fond par endroits, ça la rend accessible. Le stock de poissons, il est pas inépuisable, on le sait tous très bien. Enfin, il y a d'énormes problèmes, en tout cas paramètres géostratégiques et géopolitiques autour de tout ça. Donc, c'est pas un sommet qui est ouvert au grand public à proprement parler. C'est vraiment au travers des médias que ça doit se diffuser. Donc, c'est à peu près ça, ce sommet. Donc, moi, j'y ai passé 2 jours, le mercredi, une partie du mercredi et le jeudi. On a commencé par une très belle table ronde avec Jean-Louis Etienne qui nous invitait à Océanopolis. Et c'était vraiment chouette. On avait Emmanuel et Guylain Bardou d'Under the Pole, Jean-Loup Chrétien depuis Houston qui regardait sa vision depuis le ciel à l'océan, et Thomas Rouxel, coureur au large, hein, qui travaille avec Thomas Coville. Moi, je me situais en fait dans l'interface terre-mer, là, c'était drôle, mais c'était vraiment très riche, et Jean-Louis Etienne est vraiment quelqu'un de tellement formidable, je suis fan. Donc, un très beau mercredi soir. Le jeudi, je suis un peu allé dans l'arène, où effectivement, alors on va pas dire que c'est pour des happy few, mais ce sont les gens des différents secteurs en fait maritimes au sens large qui se retrouvent lors de conférences, de tables rondes. On a eu un joli moment, l'appel des marins pour de l'univers de la course au large qui communément, une grande partie a signé une charte de help pour l'océan. Bon, ça a un côté très symbolique, hein, tout ça. Moi, ce que je sais très bien, on a parlé un petit peu avec Jean-Yves Le Drian en soirée là, et Jean-Yves très bien. Bon, il y a un espace-temps pour les choses, et c'est vrai que j'imagine très bien qu'aller discuter avec des Chinois, des Russes, des Américains et bien d'autres de l'avenir commun de tout ça, on va pas régler la chose en le temps d'un week-end et jusqu'au lundi matin suivant. Donc ça a un côté très frustrant à ce niveau-là, mais il faut savoir effréner nos ardeurs. Et puis ça a le côté chouette parce que ce genre d'initiative met tout ça sur le tapis, et puis il faut en parler de plus en plus. Moi, je pourrais juste regretter que dans ce genre de sommet, les contre-sommets ne soient pas plus mis en avant. C'est-à-dire que ce sont quand même beaucoup des ONG, beaucoup du monde du terrain qui fait évoluer les choses, et qu'on se retrouve dans ces endroits-là, qui sont certes des endroits de résumé de la situation, de condensé, enfin de stratégie et de prospective. Mais mettre en avant les initiatives et l'énergie surtout qui sort du terrain, ça serait encore mieux.
Oui, c'est vrai que We Explore est une île de solutions dans un océan de questions. Mais est-ce que la sauvegarde des océans est vraiment un point majeur dans le projet ?
La sauvegarde de l'océan est c'est essentiel pour nous. Hein. On vient tous de l'eau, donc on ne peut pas le nier. La sauvegarde de l'océan est essentielle pour moi, dans la mesure où notre planète bleue, elle devrait s'appeler la mer et pas la Terre, finalement. C'est fou parce que c'est tellement montré aujourd'hui, c'est tellement évident, les preuves sont là, les scientifiques ont fait leur boulot, et il a atteint sa capacité de digestion maximale, quoi, l'océan. Donc on ne peut pas faire autrement. Si on était tous complètement sensés, eh bien non. On arrête parce que là, il y a tout ça qui nous montre que il se réchauffe, il s'acidifie, la mer monte, on a les sargasses, on a les stocks de poissons qui diminuent, on a les pollutions diverses, on découvre aujourd'hui, eh ben ce monde du plancton qui fait 50% de notre oxygène, voire plus, ces mauvais planctons qui seront nos Covid de demain, etc., etc. Enfin, il y a quand même méga urgence, hein, alors qu'effectivement, assis sur le bord de l'eau, assis sur le bord du rocher ou assis sur le bord de la plage, on peut se dire que tout va bien, il est encore sympa avec nous, mais non, le coup est parti. Donc c'est effectivement essentiel, mais l'océan fait partie de la Terre et inversement.
On est tous d'accord, ce qui arrive dans les océans vient de la Terre. Est-ce qu'il faut donc avoir une visibilité terre-mer pour sauvegarder les océans?
Mais oui. Mais qu'est-ce qu'on l'oublie si facilement? J'adore cette phrase de Pierre Molot, qui était le titre d'un de ses articles de vulgarisation scientifique. Les sardines mangent des châtaignes. Eh ben oui, les sardines mangent des châtaignes parce que la chaîne alimentaire, elle se fait à la source. Elle se fait à la source du petit ruisseau. Et dès qu'on perturbe tout ça, ben ça perturbe les habitants du dessous, quoi. Et cette question-là. Elle nous paraît pas très grave. Et puis la petite source, on va la rentrer dans un gros tuyau de béton, et puis on va faire ceci, et puis on va altérer tout ça en se disant que bon, on trouvera bien une solution, quoi. La technique va nous sauver. Non, les sardines, elles ont perdu 30% de taille, là, je crois. Les anchois et les sardines, on remarque par chez nous qu'elles ne grossissent plus. Alors, elles n'ont plus assez de châtaignes à manger, et quand elles remplissent le ventre, c'est de microplastique. Donc, ça urge quand même. Je suis pas encore devenu complètement végétarien. J'adore ma petite sardine grillée de temps en temps, pourvu que nos enfants puissent en profiter, quoi.
Les sardines mangent des châtaignes. Moi aussi, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est très visuelle. Alors, avec ce catamaran We Explore qui est en fibre de lin, on pourrait dire que ce projet est un vrai pont entre la terre et la mer.
Ouais, tous les jours, vraiment, alors je me félicite, c'est beaucoup dire, je me flagelle en me disant, mais c'est ça, la voie We Explore, c'est ce qu'on veut montrer depuis le début. On a voulu le montrer avec Explore, on a voulu le montrer par le début de nos recherches dans les biomatériaux et le végétal de la terre. La terre et la mer sont liées, sont indissociables, sont des éléments de notre vie qui nous accueillent, et on ne peut pas. On parlait du sommet de l'océan, c'est super, mais c'est des sommets de la nature et de l'environnement qu'il faudrait faire tous les jours. Un sommet comme ça, c'est comme la Saint-Valentin ou la journée de la femme, quoi. Il y a 364 autres jours après, quoi. Donc c'est bien effectivement de faire un focus sur tel ou tel sujet, mais tout ça doit nous rendre conscients que chaque acte qu'on fait est lié à la terre et à la mer. Et ben oui, Explore et en tous les cas est là pour ça, et c'est ce qui nous motive tous les jours, quoi, dans un chemin imparfait, d'essayer au moins de mettre les questions en avant et de tenter d'avoir des réponses, si ce n'est complètes, au moins imparfaites, pour que d'autres prennent le relais et qu'on soit plus à penser comme ça.
En écoutant Bilou, j'ai vraiment envie de lui demander si finalement on ne peut pas le définir comme un terre-mérien.
Je suis un terre-mérien, c'est une bonne idée, ça. Tiens, c'est pourquoi pas. Mais bon, on est tous des terre-mériens et des terre-mériennes. Excellent.
Parlons maintenant du catamaran We Explore. On a compris que la terre était aussi présente sur le bateau. D'ailleurs, je précise que la pièce la plus importante en lin jamais réalisée au monde est sur We Explore. C'est dingue, non? Et dans l'épisode 3 du podcast, vous vous souvenez, Bilou nous disait être à la maternité, enfin, au chantier, pour le démoulage du pont. Et aujourd'hui, il en est où ce gros bébé?
Ouf, le pont s'est démoulé. C'est quand même une tarte tatin géante. Hein. Si on la rate au démoulage, ça fait des sueurs froides. Donc, c'est super. Le pont est sorti de son moule en forme développée. C'est quand même quasi l'équivalent d'un terrain de tennis. Donc, c'est pas rien. Donc, ensuite, il est retourné pour se mettre dans le bon sens, dans le sens définitif. Il y a tout un tas de travaux qui se poursuivent avec le chantier Outre-mer. En parallèle, il y a des tests qui sont faits, donc des tests ultrasons, des tests par vérification du composite. Des petits morceaux sont découpés. Il y a des éprouvettes tests qui ont été faites en parallèle. Et tout ça part aussi en vérification. Donc on torture les échantillons pour voir si les caractéristiques mécaniques correspondent. Tout va bien, je peux rassurer la famille et les amis, le bébé se porte bien après cet accouchement. Et donc le pont est en ce moment, au moment où on se parle, en train de d'embrasser généreusement ses coques, puisqu'on le pose pas comme ça en 5 minutes sur la coque, il y a des ajustages avant le collage définitif. Alors, donc, en ce moment, la boîte se referme, ce qui est quand même la dernière grosse étape en fait, et en parallèle de ça il y a mille et une petites étapes donc dans le monde du composite, l'ensemble de ce qu'on appelle les greffages, donc les liaisons entre la coque et le pont, ça prend un petit peu de temps. La structure intérieure du bateau se termine, et en parallèle ont été installées la motorisation, les pompes de cale, enfin tout un certain nombre de systèmes avant les prochaines étapes qui seront plus autour de l'ameublement, on va dire, qui va quand même être très très light, mais qui accueillera les systèmes électriques, les systèmes électroniques, qui eux-mêmes seront très light, parce que on travaille vraiment dans ce sens de la sobriété heureuse, avec effectivement l'objectif de l'année et de tester tout ça, donc tester les matériaux, donc pas de fioritures, on va dire, ça va être un bateau très très dépourvu, très bien pour être léger pour la route du Rhum, ça tombe très bien, mais aussi pour l'histoire complète, on veut travailler sur de la progression, donc c'est bien de partir on va dire d'une page blanche d'un bateau comme si on le découvrait à l'instant T, donc on part avec pas grand chose et on mettra les choses là exactement où on en a besoin.
Je rappelle que sur un bateau de course, il n'y a pas de réfrigérateur, ni de four, ni de cuisine comme à la maison, ni de toilette ou de douche. C'est très spartiate, voire pas très confortable, et surtout très sobre.
Ça va effectivement surprendre si les propriétaires ou si les habitués de ce genre de bateau habituel viennent le visiter, ça va leur faire un grand sentiment de vide, c'est clair. Mais alors c'est là où l'aventure suivante ou l'aventure en parallèle continue. On était hier encore avec la troupe, je les appelle la troupe de nos gens d'Explore, mais qui eux s'occupent de la suite de l'événement. Ce bateau, il est fait aussi pour de la scénographie, pour de la sensibilisation, pour de la pédagogie. Donc ces grands espaces entre guillemets vont être employés pour des activités modulables. Et donc on racontera tout un tas d'histoires avec certains chapitres. Et donc on a besoin de place dans le bateau. Donc tout ça fait un petit peu surprenant comme ça, mais il y a tout à inventer, donc c'est vraiment excitant. Et tu parlais de terre, mais on déjeunait ce midi avec un de mes héros, hein, Corentin de Châtel-Perron, et donc le porteur de projet de Nomades des Mers, et donc on va évidemment s'inspirer de tout ce que fait Corentin sur les installations à mettre à bord pour la route du Rhum. On aura l'occasion d'en reparler, mais on fera pousser du verre à bord, on fera pousser du verre sur le bleu de l'océan.
Dans ce projet We Explore, comme l'a très bien dit Bilou, le lien entre la terre et la mer est essentiel. Et oui, être navigateur, c'est aussi faire attention à ce qui se passe à terre. Nous devrions donc tous être des terre-mériens et faire attention à notre planète bleue. C'est fou, car tout se lie dans ce projet, car la Terre va avec l'océan, et quand je parle de planète bleue, je pense tout de suite au lin. Car je ne sais pas si vous avez déjà vu des fleurs de lin, mais elles sont superbes. Elles sont toutes petites, ce sont des petites fleurs bleues qu'on aperçoit dans les champs au mois de juin. Et si vous avez l'opportunité d'aller en Normandie à cette période, regardez tous ces champs bleus. Cela donne énormément de gaieté dans le paysage. Et oui, en parlant de lin, nous avons eu envie d'aller en Normandie à Saint-Pierre-le-Vigier, en Seine-Maritime, chez Terre de Lin, pour savoir comment une coopérative agricole est devenue partenaire de We Explore. Car réaliser un bateau en fibre de lin est une grande première et il fallait oser le défi. Nous avons donc rencontré le président de Terre de Lin, Guillaume Emmerich, et son directeur Thierry Goujon. Bonjour Guillaume Emmerich.
Bonjour.
Terre de Lin est une coopérative spécialisée dans la culture et la transformation du lin textile de la semence à la fibre. Comment en êtes-vous arrivé à faire un partenariat entre Terre de Lin et We Explore ?
Alors il y a un partenariat technique qui existe depuis longtemps entre Kairos et Terre de Lin, et en fait Roland et Sophie sont venus nous voir l'an dernier à peu près à cette époque-là en nous présentant un projet de plus grande envergure, un projet avec une grande ambition, donc avec l'objectif de faire la route du Rhum en 2022 avec un grand bateau en lin, quelque chose qui s'était jamais fait. Donc on les a écoutés, on a échangé longuement. Ils nous ont paru, ce qui a paru comme une évidence, c'est qu'on était en phase sur les valeurs, et je crois que c'est surtout pour ça qu'on a adhéré au projet. Il y a des valeurs humaines qui sont fortes, il y a des objectifs communs, il y a la volonté de construire l'avenir avec beaucoup de pragmatisme, il y a aussi beaucoup de simplicité dans leur approche et dans leurs propos. Et ça, ce sont des valeurs qu'on a au niveau de Terre de Lin, et qui sont les mêmes, et qu'ils ont aussi au niveau d'Explore, et donc l'envie d'avancer, de construire l'avenir de manière très durable. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, bah oui, ok, il faut y aller. Et en plus, on était dans un contexte Covid où on avait besoin de remobiliser les adhérents et les équipes de Terre de Lin autour d'un projet, de construire des choses, parce que le Covid... à force c'est un peu rébarbatif et négatif, donc ce projet tombait à pic pour qu'en interne on recrée quelque chose de très positif.
Je me tourne maintenant vers Thierry Goujon. Bonjour. Quelle est la grande spécificité du lin comme matière pour qu'il ait été choisi pour être la matière principale du catamaran ?
Mais par rapport au projet donc, qui nous était proposé, et d'un point de vue technique, évidemment, la première caractéristique du lin, c'est quand même sa caractéristique de résistance. Mais ce qui a fait basculer, nous semble-t-il, l'intérêt du lin de manière positive, c'est que c'est une matière aujourd'hui biosourcée, qui a des modes de production qui font d'elle une des fibres les plus éco-responsables et les plus respectueuses de l'environnement, et qui plus est produit de manière industrielle. Aujourd'hui, on a déjà un business qui existe autour du lin où on parle en milliers de tonnes, et le sourcing est aussi donc une garantie pour ces marchés techniques. Et la conjonction donc d'une production aujourd'hui maîtrisée, d'une fibre éco-responsable, avec des caractéristiques techniques ensuite qui viennent s'ajouter, donc comme la résistance et aussi d'autres qui peuvent être la résistance aux ondes, l'absorption des ondes, ça a fait que le lin a été choisi. Et maintenant, un dernier critère qui devient déterminant, c'est la gestion du carbone. On constate qu'il y a vraiment un besoin il y a une recherche autour des matériaux avec un bilan carbone positif. Et là, le lin, par définition, est une fibre qui produit de la cellulose, qui stocke du carbone. Et c'est donc un moyen pour aller intégrer du carbone dans des matériaux techniques. Et donc, quand on fait la somme de toutes ces cases, le lin coche beaucoup de cases positives pour en faire donc une matière de choix pour le projet We Explore.
Vous avez fourni le lin pour construire le catamaran We Explore. C'est quand même très différent de préparer du lin pour un bateau à du lin pour du tissu. Comment vous êtes-vous organisé ? Est-ce que vous avez dû faire des investissements, des formations en interne ?
Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, la filière textile et la filière technique sont finalement très proches d'un point de vue approche technique. Dans le textile, aujourd'hui, on développe des matières qui sont filées, qui sont tissées à vocation textile habillement, par exemple. Et bien dans le technique, c'est la même chose. Il faut que la matière soit filée, ou en tout cas mise en ruban, préparée, tissée, Alors, avec des techniques qui sont finalement assez proches. Donc, pour nous, ce n'était pas réellement une grande révolution technique sur le fond. Alors, évidemment, on a dû faire des adaptations, parce qu'à la base, on n'est pas filateur, on n'est pas tisseur. Mais on a donc plutôt déjà préféré travailler avec un partenaire tisseur pour utiliser les compétences qui existent déjà aujourd'hui dans le domaine du technique. Donc, on s'est rapproché d'un tisseur qui a l'habitude de tisser du verre ou du carbone. Et donc, on a adapté notre matière à ce tissage, donc en passant par un système de filature. Et finalement, notre plus gros coup de stress, ça a été sur la rapidité et l'exécution qui a dû se faire en quelques semaines. Donc, trouver un partenaire tisseur et en face, préparer donc la matière rapidement. Et tout ça au mois de juillet ou au mois d'août, quand toutes nos équipes étaient en congé. Mais ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais ça a été vraiment, pour nous, le challenge principal à ce niveau-là de faire vite.
Quelles ont été les grandes difficultés dans la préparation de ce tissu ?
Alors on est quand même passé par quelques investissements qui ont maintenant 3 ans. On est en R&D et on va dire on a utilisé des machines de prototypage et on les a fait passer en machines industrielles entre guillemets, où de là où on produisait quelques kilos, on a dû produire quelques centaines de kilos et même aller jusqu'à 1,5 tonnes, parce qu'il y a 1,6 tonnes exactement de matière dans le bateau. Donc ça nous a obligé de nous organiser pour pouvoir produire justement assez rapidement des petites quantités journalières. Et donc derrière, des essais aussi qui ont été faits sur des machines, de l'adaptation, parce qu'évidemment, ça ne s'est pas fait si simplement. Mais en tout cas, sur le fond, on a retrouvé des techniques qui sont des techniques textiles que l'on connaît davantage de chez nos clients. Et nous, on a donc essayé d'adapter toutes ces approches sur le lin. Et aujourd'hui, donc, on a un matériau qui n'est pas encore au point complètement, qui demande encore d'être perfectionné, mais en tout cas, on a démontré que c'était possible et que des tisseurs de verre ou des tisseurs de carbone étaient capables d'utiliser du lin dans leur machine. On a démontré également de ce côté-là une faisabilité.
Guillaume Emmerich, pour Terre de Lin, est-ce une volonté de développement afin de toucher de nouveaux secteurs ?
Bien entendu. Donc, Terre de Lin, il faut remettre ça dans son contexte. Tout à l'heure, je vous ai parlé de valeurs humaines. Alors, on est une entreprise coopérative, 80 ans d'existence et plus, 650 adhérents, 350 salariés. On n'existe pas sans des valeurs humaines fortes et tous ces gens-là ne peuvent pas travailler ensemble si on n'a pas un projet commun. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le projet de fond, qui est très simple, la mission, c'est que les liniculteurs gagnent bien leur vie et ce, de manière durable. Donc, nous, on bénéficie aujourd'hui des projets qui ont été initiés par nos prédécesseurs, donc les 2-3 générations d'avance. Et en fait, si on veut... Donc, Terre de Lin, c'est une très belle réussite, c'est une très belle entreprise. Et si on veut continuer dans la même voie dans le futur, il faut qu'on prenne les bons choix stratégiques pour là-dessus. Et donc, on explore, le terme correspond bien à ce qu'on cherche, des voies qui seront adaptées dans le futur, qui permettront aux liniculteurs de bien gagner leur vie, de faire en sorte que le lin soit toujours leur production favorite sur leur exploitation, parce qu'il n'y a pas que la passion de la fleur bleue, il y a aussi ce qui va avec. Et donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on est engagé dans les matériaux composites. On a eu des belles réussites, mais qui sont des micro-réussites parce que ça représente peu de volume, mais ce sont quand même de belles réussites, certaines qui sont au stade industriel. Et on espère, avec ce projet-là, faire décoller certains marchés de composites, et notamment dans le nautisme, mais au-delà, parce qu'on pense que ce projet peut rayonner au-delà du nautisme dans les composites.
Merci à vous. Et maintenant, nous retrouvons Bilou pour un superbe coup de cœur.
Alors, on fait cet enregistrement un vendredi, on peut pas se cacher, voilà, c'est la fin de semaine, pour moi, elle a été très chargée. J'ai mon coup de cœur perso, mais je le souhaite à tout le monde, trouvez-vous un petit bout de nature ce week-end, posez-vous devant la nature et remerciez-la. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver dans mon verre. Alors, j'ai de la chance parce que mon verre, il est pas loin de mon bleu, donc je vais aller voir un peu de nature, un peu mes bois ce week-end et un peu d'eau de mer aussi en étant passé par l'eau douce de mon ruisseau, et ça va me combler le vide que la semaine de boulot m'a donné. Donc je souhaite à toutes celles et ceux qui nous écoutent d'avoir un tout petit coin de nature, pas forcément besoin d'un grand, d'ouvrir les yeux et les oreilles et puis d'avoir un moment de sérénité Voilà, et tenez-nous au courant et faites-nous des retours, mais soyez heureux dans ce moment-là.
Avant de conclure, nous laissons le mot de la fin à Guillaume Emmerich, président de Terre de Lin, sur ce que représente We Explore pour lui.
Pour moi, ces quatre mots, c'est un projet, un futur.
Merci d'avoir écouté ce quatrième numéro. Merci à Guillaume Emmerich, à Thierry Goujon de Terre de Lin, à Bilou, à Virginie Caron pour la coordination et à l'ensemble de l'équipe de We Explore. Soyez toujours créatifs et inventifs et n'hésitez pas à envoyer vos idées sur les réseaux sociaux de Explore. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois et si vous avez aimé ce podcast, allez-y, dites-le. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast et de donner des étoiles sur Spotify. La musique est de Nordgroove, Feel Like That. Just find it and take it, don't live regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God.